Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, vous écoutez Minute Papillon avec notre rendez-vous du vendredi Tout s'explique, où on parle de sexualité, de santé et de société. Parce que oui, quand on parle de sexualité, on parle de tout ça un peu à la fois. De retour après un Covid, et oui, c'est la vie, j'ai rencontré Anne-Laure Parmentier, entrepreneuse, podcasteuse, pour évoquer avec elle la sexualité des hommes et ça a commencé comme ça. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de On the Verge, qui est un podcast depuis 2019. Mais c'est aussi un livre qui reprend des interviews de ce podcast.
Entre autres, ouais.
Et pour faire découvrir le podcast aux auditrices et aux auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un espace offert aux hommes pour parler de sexe au masculin sans tabou ni jugement.
Eh bien, tu as tout à fait résumé, Laetitia, c'est exactement ça.
Je suis...
Eh bien, merci. C'est ça, ouais. C'est un espace safe, bienveillant, qui est un peu le mot hein, de 2021, mais je réutilise en 2022, accueillant. Et c'est une discussion très libre de la sexualité d'un homme à ce moment-là, sans tabou ni jugement.
Des témoignages d'environ une heure, donc d'hommes qui sont plus ou moins jeunes et
tout
qui parlent entre autres de... polyamour, d'impuissance, de BDSM, des relations queer.
Exactement, de relations hétéronormées aussi, de leur première fois, de leurs fantasmes, de leurs tabous. Enfin, c'est très complet, il y a vraiment toutes les orientations, les pratiques, les limites que l'on peut se poser. Enfin voilà, c'est assez complet, ouais.
Et ce livre éponyme, On the Verge, a pour but de tresser un panorama de la sexualité, de la masculinité, de l'intimité des hommes. Ma première question, qui va être compliquée? Quel est ce panorama de la sexualité des hommes en 2022?
Avez-vous deux heures? le panorama aujourd'hui de la sexualité, c'est complexe hein, comme question. Effectivement, quand les éditions Robert Laffont m'ont approché justement pour ce projet, enfin c'était un projet que l'on a pensé conjointement, l'idée c'était vraiment d'arrêter une photographie sur la sexualité en 2022 des hommes et surtout exprimer leur questionnement à eux, leur envie en tout cas de s'exprimer. Aujourd'hui les hommes sont, alors je ne vais pas faire une généralité, je ne vais pas parler au nom de tous les hommes évidemment, mais en tout cas le sentiment que j'ai moi quand je reçois des hommes à mon micro, c'est que déjà il y a un vrai sujet de paroles libres et de discussions. Beaucoup me disent à mon micro des choses qu'ils n'ont jamais dit à leur partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Beaucoup se posent des questions sur leurs préférences, leur orientation, leur position en tant qu'homme. Ils ont peu de possibilités d'échanger entre eux, puisque c'est pas un secret que je déflore de la gente masculine, mais c'est vrai qu'ils ne se parlent pas vraiment entre eux, il y a vraiment un genre de pudeur entre eux. Et beaucoup se posent des questions sur leur légitimité, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils veulent apprendre. Et donc aujourd'hui, le panorama, il est un peu complexe parce qu'il y a entre une jeune génération d'hommes assez déconstruits qui ont vraiment pris en possession leur sexualité, le consentement de leur partenaire et d'eux-mêmes, avec est-ce qu'ils sont OK avec cette pratique ou cette orientation et ce rapport. Ils se détachent un peu de la relation du triptyque érection, pénétration, et puis hop, c'est...
Éjaculation.
Il m'en manquait, hein, tu sais, comme là, quand tu fais la prière. Et donc, ils se détachent un peu de ça. Donc, les relations sont un peu moins pénicentrées. Et donc, il y a cette déconstruction-là. Mais je te parle de peu de jeunes hommes qui sont capables, ou d'hommes, bien sûr, qui sont capables d'avoir cette distance-là. Beaucoup sont paumés parce qu'ils ne se reconnaissent pas, parce qu'ils ne savent pas où ils vont, parce qu'ils s'interrogent. Et du coup, je pense que c'est pour ça que le podcast, dès son lancement en février 2019, a rencontré autant de façon très humble, hein, mais de succès, parce que je pense que les hommes, mais aussi les femmes, avaient besoin d'avoir des réponses à ces questions.
On va continuer sur ce thème de l'expression et de la sexualité. Comment on parle de sexe? Comment on parle de relations humaines? Parce que on parle de ça, on parle d'intimité. J'avais reçu Daphné Leblond, qui est co-réalisatrice d'un documentaire en 2020 qui s'appelle « Mon nom est Clitoris ». Et dans ce documentaire, elle donnait la voix à des jeunes femmes, des adolescentes et des jeunes femmes. Et elle disait, c'est très difficile pour ces adolescentes et ces jeunes femmes de parler de sexualité, parler librement de sexualité. Parce que tout de suite, quand on est une adolescente et qu'on parle de sexe, on est étiquetée cochonne. On risque d'avoir cette honte sociale, on risque d'être considérée comme une salope. Et puis, elle disait aussi qu'il n'y a pas beaucoup de transmission entre les parents et les enfants parce qu'on n'en parle pas vraiment, on est mal à l'aise. Est-ce que les hommes que tu as interrogés, donc il y a 80 à peu près,
ouais, ouais, bien sûr.
80 entretiens, est-ce que tu as eu la même impression, le même retour de ces hommes interrogés dans ton podcast ?
Les hommes que j'interroge, alors effectivement, il y a un vrai fossé entre leur éducation et, en tout cas, le moment où ils étaient eux-mêmes adolescents et ce que leurs parents ou leurs référents adultes ont pu leur transmettre. C'est-à-dire qu'effectivement, pour beaucoup, il y en a quelques-uns qui ont des parents ouverts, plutôt déconstruits et qui les ont accompagnés dans la sexualité. Mais pour la plupart, c'était tabou. On n'en parlait pas à la maison. Beaucoup ont découvert dans la cour de récré et évidemment dans la pornographie. Les premiers liens avec la sexualité, c'est comme ça qu'ils ont forgé leur fantasme et qu'ils ont projeté leur future sexualité. Donc ce qui fait évidemment des sexualités qui sont très hétéronormées, avec des corps extrêmement stéréotypés, et puis des pratiques, et puis tout ce qui va autour du cinéma pour adultes, avec ce qui est très fictionnel finalement. Les rapports intimes entre un homme et une femme, ou deux hommes, ou deux femmes, ou plusieurs, enfin, peu importe, chacun fait ce qu'il veut, ne sont pas comme ce que la pornographie montre. Donc c'est vrai que c'est là où il y a vraiment quelque chose de dissonant, c'est cette image que les ados trouvent excessivement facilement sur leur smartphone ou entre copains, le tabou dans les familles, où on ne dit absolument rien. Et donc, du coup, après, débrouille-toi avec ça. Et je pense que les jeunes filles, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elles sont malheureusement les victimes de cette espèce de, on va dire, de cercle un peu vicieux où les garçons voient ça, l'avilissement de la femme, parce que souvent, c'est du male gaze et les regards pornographiques, enfin, les réalisateurs pornographiques sont des mecs. Alors, de plus en plus, et Dieu merci, il y a des femmes qui commencent à faire du porno éthique avec des visions beaucoup plus féministes et beaucoup plus éthiques de la sexualité. Mais il est vrai que ces jeunes femmes, du coup, subissent un peu l'homme qui domine, la femme soumise. Et donc, du coup, par extension, dans la cour de récré, si les filles sont un peu plus libres avec leur sexualité, elles passent pour.
La pornographie, donc regarder un écran, taper. Ouais. Je ne vais pas donner les noms des sites, mais c'est facilement.
C'est extrêmement facile.
Très facilement. Et ça fait, en fait.
Sur les réseaux sociaux aussi, tu n'as pas que les films porno. Tu vois, tu vas sur TikTok, tu vas sur Instagram, etc., sur Snapchat. Ça va très, très, très vite. Et puis, après, bon, c'est un autre débat, mais. Aussi les programmes que les jeunes regardent. On ne parle pas de porno, bien sûr, mais on est quand même sur un rapport au corps, un rapport à l'intimité. Tu vois, les gens... Enfin, tu vois, Kim Kardashian, elle est connue pour avoir fait une sextape, quoi. Et la nana, aujourd'hui, est millionnaire, si ce n'est plus. Donc, du coup, il y a un rapport aussi, tu vois, à la sexualité, à cette facilité. Tu regardes tes réseaux sociaux, et c'est très bien aussi qu'on ouvre cette parole, attention, mais sont interviewés des TDS, donc des travailleurs du sexe, sans aucun problème. Donc c'est bien parce que d'une certaine façon, ça met en lumière tous ces jobs et tout ça existe. Mais je pense qu'il faut vraiment aller aussi vite que les médias et que cette liberté de parole. Il faut aussi accompagner les ados, accompagner les jeunes adultes là-dedans.
C'est extrêmement commun. Tout le monde, en fait, a fait presque son éducation sexuelle avec le porno, qui n'est pas que en ligne. C'est vrai, il y a aussi beaucoup sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, ça va très très vite. Et puis dans la cour de récré, tu vois, il y a un truc où on échange les noms, les photos, les kinks, les tags, etc. Enfin, il y a un vrai... et c'est important que, encore une fois, alors... C'est ce que je dis dans la préface, hein, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est à l'éducation nationale de sensibiliser les ados et les jeunes adultes? Est-ce que c'est aux parents, aux référents adultes autour des enfants, parce qu'il y a des tuteurs, il y a des professionnels de l'éducation, enfin j'en sais rien, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait accompagner davantage les ados dedans, parce que c'est mettre un mouchoir sur ce sujet que de croire que ça n'existe pas. Et puis il faut que les parents aussi apprennent à se déconstruire avec ça. Je pense qu'il y a un vrai truc aussi de rapport, de décomplexer, ou en tout cas d'accompagner ces ados là-dedans.
Pas simple.
Pas simple.
on va laisser les parents,
les professionnels, exactement,
qui nous écoutent, d'expression libre. Je reviens à Daphné Leblon, donc, qui donnait la parole à des jeunes filles à propos de la sexualité, de leur sexualité, et elle, la difficulté aussi de s'exprimer. Et elle disait, ces jeunes filles, quand on n'a pas de mots, on se réfère à quelque chose qu'on appelle très faussement l'instinct. Sauf que l'instinct, c'est juste la reproduction des normes sociales à l'état pur, une reproduction d'habitudes, d'idées reçues. Alors, parler, s'informer avec un podcast, avec un livre, avec les réseaux sociaux, c'est exprimer aussi sa différence, pouvoir avoir cette possibilité de sortir de la norme.
Mais complètement, effectivement, enfin bon. Moi, je suis née dans les années, au milieu des années 80, donc on n'avait pas toutes ces plateformes d'information. Aujourd'hui, effectivement, tu as des podcasts, des réseaux sociaux, des créateurs de contenu qui peuvent t'informer sur les différentes orientations, sur les différents genres, sur beaucoup d'expressions de ton intimité, de ta sexualité. Et c'est OK, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a aussi une réalité, et ça, c'est vrai que moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis mis face à ça, c'est que dans tout ce qu'on voit, que ce soit les films, les séries, que ce soit les bouquins que tu lis, à chaque fois, la représentation de l'intimité, c'est souvent un mec qui prend une nana contre un mur, qui lui met la main sous la jupe, qui l'embrasse. Tu comprends par un jeu de caméra habile qu'il y a une pénétration. Lui, il termine et voilà, le rapport est terminé. Donc quand tu parles d'instinct, c'est quelque part ça, c'est cette projection de c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que moi, en tant que femme hétéro, si la jeune femme se sent hétérosexuelle, je dois m'affranchir. Alors qu'il y a mille fois d'autres possibilités d'avoir un rapport et surtout, il faut être OK avec ça. Et ça, c'est pareil, c'est encore une fois, c'est le regard mainstream du rapport entre un homme et une femme qui éduque. Même s'il n'y a pas de parce que la pornographie, c'est voir les parties génitales en action, etc. Mais ne serait-ce que dans l'érotisme ou dans la suggestion, mais même dans les livres, c'est souvent comme ça que c'est décrit. Donc on peut comprendre aussi qu'une jeune femme qui va faire, une jeune fille qui fait son éducation à travers des séries, etc., à part des choses extraordinaires comme Sex Education, qui
on en a parlé.
Qui sont vraiment, mais même pour des gens qui ont, comme moi, plus de 35 ans, c'est une révolution en termes de visibilité, d'expression de genre, d'expression de sexualité et surtout d'autonomie de l'adolescent.
Et de la diversité.
Incroyable, la diversité.
Des relations humaines.
Humains. Ouais,
parce incroyable. Qu'avant de parler de sexualité, on parle de relations humaines aussi, de jeunes et de moins jeunes.
Complètement.
Ce qui est bien aussi, parce que ce n'est pas que la sexualité, aussi des jeunes qui sont au lycée.
Ah non, mais c'est ça qui est intéressant. Puis c'est surtout, enfin, moi j'aimais tous les sujets transverses, de l'éducation, de la transmission, de l'éducation, effectivement de la différence dans toutes ces formes, mais aussi effectivement de l'intime. Et puis... comment aussi ces lycéens sont pris au sérieux. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas niés, ils sont concrets, ils sont vrais. Elle est brillantissime, cette série.
Et j'aime beaucoup Gillian Anderson.
Bah, bref. C'est vraiment une...
Depuis X-Files.
Depuis X-Files, ouais, déjà, c'était une évidence. Mais là, Gillian, on l'adore.
On l'adore, c'est sûr. Mot d'amour de Gillian Anderson, l'actrice, ouais. Qu'on va terminer ce podcast.
Ah, ben, écoute, merci Anne-Laure. Si tu nous écoutes, je t'en prie, Anne-Laure, merci.
Merci encore à Anne-Laure Parmentier. On the Verge, le livre a été publié aux éditions Robert Laffont. Minute Papillon, avec son point d'exclamation, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous ferez ainsi grandir la communauté. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des petites étoiles sur la plateforme Apple Podcast. On se retrouve très vite. D'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.